française en Corée.
Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Bonjour,
tu
comment allez-vous?
Très religieuse aujourd'hui.
Ah, oh oui, j'ai tellement médité. Et toi, as-tu bien médité?
Je suis très très sereine.
Toi aussi Yann?
Non,
moi, je suis très zen, là, pas de problème. D'ailleurs, je suis en train de décoller de ma chaise et...
Alors, comme la semaine dernière, je vais commencer cette rubrique par vous parler d'un instrument de musique. Alors, cette semaine, intéressons-nous au ting.
Ting.
Voilà, ting. Donc, ce gong est appelé na ou keum aussi.
Keum, comme un mec en verlan.
Oui, mais ça n'a pas la même signification.
Ah, d'accord.
Bon, c'est le mot sino-coréen pour métal ou bien or.
Ah, oui, c'est vrai.
Métal et or, d'accord?
D'accord, t'as compris, hein? Mm-hmm. Pas que, pas mec, hein? Donc, cet instrument est en forme de cuvette et
pas
il
de
est
commentaire.
Tenu. Cet instrument est en forme de cuvette, disais-je.
Pas de commentaire.
Et il est tenu par une corde et il est frappé avec un maillet dont une extrémité voilà, est recouverte de tissu. Le maillet, hein. Alors, cet instrument était utilisé autrefois dans l'armée. Il signalait la retraite.
Oui. Oui. Alors que le django dont on nous parlait la semaine dernière était utilisé pour que les soldats marchent au pas.
Voilà, on ne l'a pas dit d'ailleurs la semaine dernière. Mmh. Alors, plus tard, le ting fut utilisé dans la musique militaire. La musique, hein, pas seulement pour sonner la retraite. Et aujourd'hui, il est utilisé par les chamans, encore eux, mm-hmm. et dans le bouddhisme. D'accord. Alors, on va écouter le ting, quand même. Alors, aujourd'hui, nous allons donc rester sur la religion, après ce merveilleux son du ting. Mm-hmm. Et nous allons parler du bouddhisme, en commençant par une triste nouvelle.
Ah oui.
Alors, les bouddhistes sud-coréens ont perdu très récemment, le 11 mars dernier, un grand moine bouddhiste, donc le vénérable Bokchong, décédé à l'âge de 78 ans d'un cancer. Alors, cette nouvelle a touché naturellement les bouddhistes, mais aussi les sud-coréens, chrétiens ou même athées. Et tous, durant une semaine, sont allés lui rendre un dernier hommage.
Alors, on pourrait se demander pourquoi.
Oui, alors plusieurs raisons. Tout d'abord, ce moine était considéré comme un guide spirituel. Il s'est employé tout au long de sa vie à défendre une philosophie basée sur la non-possession au profit de la richesse spirituelle. Il a écrit de nombreux essais à ce sujet qui ont connu un immense succès.
D'ailleurs, même pour sa mort, cet homme a insisté pour que ses funérailles soient les plus simples et austères possibles.
Mais au-delà donc de ses talents d'écriture et de sa philosophie, donc qui trouve un écho dans notre société moderne marquée par le matérialisme, Bokchong a toujours promu le dialogue entre les religions bouddhistes, catholiques et protestantes et leurs fidèles. Alors, une autre raison qui peut expliquer cette volonté des Kidam à rendre hommage à ce moine, c'est la place qu'occupe le bouddhisme dans la société sud-coréenne, j'y arriverai. Cette religion est en effet profondément ancrée en Corée du Sud. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, le bouddhisme est entré en Corée aux environs de 370 après Jésus-Christ. Et contrairement au bouddhisme indien et chinois, orienté sur le salut individuel, la branche du bouddhisme coréen, donc cette branche du bouddhisme arrivée en Corée par la Chine, prêchait la compassion et la rédemption pour les masses. Cette foi d'origine étrangère donc se mêla à la culture traditionnelle et aux croyances locales, au chamanisme, etc., pour finalement former les fondements de la culture nationale coréenne. Le bouddhisme fut remplacé par le confucianisme au XIVe siècle. Néanmoins, le bouddhisme continua d'apporter réconfort et conseil aux gens du peuple.
Et même protection.
Alors oui, parce qu'au XVe siècle, par exemple, les moines s'érigèrent en soldats afin de combattre une invasion japonaise.
Oui, c'est ainsi que le bouddhisme obtint donc l'appellation de protecteur de la nation.
Voilà. Et à travers le territoire, on compte actuellement, je crois, plus de 22 000 temples qui font partie des sites touristiques les plus appréciés, car ce sont parmi les plus anciens.
Et puis c'est beau aussi.
Oui. Alors, dans les temples, pour atteindre le bâtiment principal, on devra souvent passer plusieurs portes. La première porte,
on l'appelle Ilitumun, ça veut dire porte à un pilier.
Oui, alors cette première porte symbolise l'unité mentale de celui qui fait le premier pas dans le territoire pur. La seconde porte est celle des quatre gardiens. Donc ces gardiens sont en charge des quatre directions, donc des quatre points cardinaux, nord, sud, est, ouest, et des quatre saisons. Puis on arrive au bâtiment principal, qui est le centre spirituel et architectural du temple, magnifiquement peint et décoré. C'est pour ça que tu dis c'est beau, c'est beau, c'est beau.
Bah oui, c'est beau.
Et en face de ce bâtiment se trouve en principe une pagode.
Avant que les images de Bouddha ne soient créées, les pagodes étaient l'objet de la vénération et étaient considérées comme la représentation de Bouddha et de son enseignement.
Oui, Yann, est-ce que tu peux nous expliquer une pagode, peut-être que ça
Une pagode, on imagine bien, c'est une espèce de tour. Les pagodes coréennes, en fait, ont ceci de particulier, c'est que rares sont celles qui sont des bâtiments. Mmh. La plupart d'entre elles sont simplement des pierres carrées, des pierres taillées, empilées. Il y a très peu de pagodes comme on l'imagine avec un bâtiment ou un petit temple à l'intérieur. La plupart, c'est simplement des piliers, mais c'est pas très joli, des pierres, etc.
Donc, genre dans lesquelles... des obélisques.
Voit un peu des obélisques, oui, dans lesquels il y a des reliques. Et sinon, à propos des temples coréens, il y a aussi, ils ont aussi une grosse particularité qu'on retrouve d'ailleurs dans les palais coréens, c'est les décorations du bois qui sont faites à la main. Et c'est très joli. C'est comment ça s'appelle ces motifs? Voilà. Et ces motifs-là sont uniques. On ne les retrouve pas du tout au Japon, par exemple. Mm-hmm. Et ça donne un côté au temple coréen très très joyeux, très beaucoup plus léger. Mm-hmm. C'est pas du tout austère comme architecture. C'est vraiment quelque chose de léger, assez agréable. On aime bien s'y promener.
Et chaque, en fait, j'ai lu que chaque peinture était différente en fait suivant les temples.
Suivant.
Mm-hmm. Et c'est par les peintures que le nom, en fait, enfin, suivant le nom du temple, la peinture sera associée, en fait.
Mais on a toujours cinq couleurs de base.
Oui.
D'accord.
Et d'ailleurs, j'ai un livre complet à la maison avec des dizaines et des dizaines de motifs qui viennent de temples coréens.
D'accord.
Pour dire à quel point ils sont variés.
Ah, d'accord, ok.
Voilà.
Moi aussi, j'ai un livre à la maison. Tu sais lire, Yann?
Merci.
Alors, à gauche du bâtiment principal, il y a une structure en forme de tour à deux étages.
C'est le pavillon abritant la grande cloche du temple.
Et tu savais qu'elle contenait en fait, pas une cloche, mais en fait quatre instruments. Le tambour dharma, le poisson en bois, le gong en forme de nuage et la grosse cloche brahma utilisée pour la vie monastique.
Bien sûr que je savais.
Tu as oublié les lieux d'études et les quartiers d'habitation qui sont en retrait du temple.
Ah ouais, mais alors ces lieux, moi... Comme ils ne sont pas ouverts au public, j'ai pas pu aller les visiter.
Ça paraît quand même normal que les visiteurs puissent pas aller là où habitent
les
moines, ou là où ils peuvent méditer, etc. Ils seraient tout le temps dérangés, et ça se comprend très bien.
Mais quant à moi, ça me donne davantage envie d'y entrer.
Ah, mais c'est vrai que ça aiguise la curiosité. Hein,
c'est ça.
Alors, les moines bouddhistes vivent dans ces temples grâce aux donations qui leur sont faites, et ce sont autant des hommes que des femmes. Donc, et les bouddhistes donc se rendent régulièrement dans ces temples pour prier. Et peut-être que là, ça peut t'intéresser, Wumi, parce que on peut se rendre donc dans ces temples pour des occasions spéciales, des cérémonies, le jour de Bouddha ou autre. Mais on peut y séjourner aussi pendant quelques jours, semaines ou mois, pour méditer et se retrouver spirituellement. Alors comme ça, tu pourrais peut-être aller visiter ces salles qui t'intéressent tellement.
Ah, d'accord. J'en profiterai. Hein.
Alors, comme je le disais au début de l'émission, le bouddhisme fait partie de la culture coréenne. Et en fait, depuis quelques années, depuis 2002, on voit se multiplier les séjours au temple, les temple stay.
Temple stay.
Oui, pardon, temple stay.
Séjour au temple.
Oui.
Je préfère le français.
Moi aussi.
Mm.
Ah oui?
Mais c'est vrai que si on fait une recherche sur Internet, ce sera beaucoup plus facile de trouver avec le terme anglais.
Temple stay. Mm. Donc, avec des programmes spécialement conçus pour les touristes et d'autres pour les étrangers. Et car ces deux publics ont un point commun, ils veulent s'immerger dans la culture du pays et vivre de nouvelles expériences. Alors, mais il y a aussi de nouveaux programmes qui ont fait leur apparition il y a très peu de temps, comme par exemple celui qui propose aux familles coréennes de se retrouver et donc de pouvoir passer
une nuit comme ça.
Voilà, et de pouvoir recréer des liens donc par la prière, et puis donc il va y avoir tout un des cérémonies où on va devoir se tenir la main, faire une chaîne entre membres de la même famille et vraiment rétablir le contact physique entre les gens d'une même famille.
À l'entrée d'un temple, il y a un petit poste là où on peut acheter les tuiles sur lesquelles on peut écrire ce qu'on veut pour la famille, pour la santé de la famille, un peu de tout. Donc, comme tu disais tout à l'heure, les Coréens bouddhistes prient pour quoi que ce soit, et à l'occasion de l'examen d'entrée d'un des membres de sa famille, ou bien un des membres est malade, c'est ça, on prie tout comme ça. Donc, le temple, c'est un bon lieu de se retrouver et réunir tous les espoirs, tous les souhaits des membres de famille.
Mais alors, pour un Coréen, il a quand même il a trois possibilités. Il va aller voir le chaman pour avoir un examen. Puis il va aller écrire son vœu sur une tuile dans un temple. Puis il va aller coller des bonbons gluants sur les portes des établissements. Si avec ça, il loupe son examen, c'est vraiment, il le fait exprès.
Non, il ne le fait pas avec assez de dévotion.
Ah, voilà.
C'est important.
Donc, les séjours au temple font partie désormais du paysage touristique coréen, à tel point que le nombre de temples qui proposent ce type de programme atteint presque la centaine aujourd'hui.
La centaine ?
Une centaine. Et le séjour en temple offre aux visiteurs l'opportunité donc d'expérimenter la vie quotidienne d'un temple coréen en y séjournant quelques jours. Le temple donc s'éveille à 3h du matin et voit se succéder tout au long de la journée diverses cérémonies et activités quotidiennes jusqu'à 9h du soir. Donc rituels de prière, méditation, cérémonie du thé, repas bouddhiste, végétarien où tout est servi à volonté, mais avec une seule consigne, de ne rien laisser dans son assiette. D'ailleurs, il y a Frédérico Jardia qui est allé faire un temple stay, ça je sais. Il faudra lui demander comment c'était. Et vous ? Question ?
Jamais.
Jamais ?
Je suis jamais allé faire un séjour au temple. J'ai déjà mangé. J'ai déjà été invité à manger dans un temple. Et la cuisine des temples est très très bonne d'ailleurs, elle est réputée, mais il y a même en dehors des temples, des restaurants qui sont spécialisés dans la cuisine, j'allais dire monastique, même si parfois ils font quelques entorses en rajoutant de la viande ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est une cuisine qui est vraiment très très bonne.
Statistiquement parlant, les Français, ils dorment beaucoup, donc avec ce rythme assez serré, je ne sais pas comment imaginer... Toi, par exemple, Héloïse, tu te réveilles à 3h du matin et pour faire la méditation ensuite et pour que tu bouges. Alors, tu peux y arriver ou pas ?
Oh, je pense, oui.
Ah bon ?
Oui, oui. Et puis, ils réveillent à coups de baguette, je pense. Ils réveillent, ils allument toutes les lumières, ils secouent les gens. Hein. Ouais. Puis, je pense que les Coréens, c'est pareil, ils auront autant de difficultés qu'un Français à se réveiller à 3h du matin.
En tout cas, ça me donne envie d'y aller parce que je voudrais vraiment m'échapper au train-train de mon quotidien. Et pourquoi ne pas passer sereinement avec méditation quelques jours dans la forêt où il y a des temples.
C'est un vrai changement de rythme. Mmh. C'est certainement très agréable.
Mais à partir de demain, donc, tu pars en temple stay, enfin en séjour au temple. Et puis la semaine prochaine, on te retrouve en grande forme.
Oui.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
KBS World Radio, c'est votre radio. Alors faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.